Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour.
Mes très chers amis, êtes-vous, vous ou un de vos proches, déjà sorti d'un rendez-vous médical bien plus abattu qu'en arrivant ? Le soignant vous a-t-il constamment interrompu ? A-t-il minimisé vos symptômes, remis en question votre douleur ? A-t-il refusé de vous prescrire des examens type IRM ou prise de sang ? A-t-il insinué que ce que vous ressentiez, c'était avant tout dans votre tête ? Si vous répondez oui à une de ces questions, vous avez peut-être été victime de gaslighting médical. Le gaslighting, c'est une technique de manipulation psychologique qui consiste à remettre en cause les perceptions d'une personne plutôt que d'avoir à se confronter à ce que cette personne dit. Si vous êtes une femme, si vous êtes une personne pauvre, racisée, grosse, vous avez statistiquement bien plus de chances que cela vous soit arrivé et les conséquences sur votre santé peuvent être dramatiques. Je sais pas à vous, mais moi je trouve que de plus en plus, chaque consultation médicale où je me rends ressemble avant tout à une joute où je dois prouver que je suis crédible avant de pouvoir être soignée. Je pense qu'il y a plusieurs causes à cela. Le sexisme presque assumé de certains soignants, la condescendance de classe d'autres, et puis bien sûr, sûrement, l'épuisement de certains, de beaucoup qui voudraient mieux faire. Le gaslighting, ce n'est pas forcément une décision consciente. C'est aussi parfois un réflexe défensif quand on n'a soi-même plus aucun moyen psychique et qu'on n'est plus en mesure d'écouter quelqu'un d'autre.
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi ?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
On peut plus rien dire.
Comment en est-on arrivé là ? Notre but aujourd'hui n'est pas de tracher ou d'accuser les soignants, mais de trouver des solutions, de réfléchir aux causes systémiques. Et puis comment faire ? Comment faire concrètement pour continuer à se faire soigner, à faire confiance en la médecine ? Y a-t-il des techniques, des choses à savoir ? Nous allons essayer de vous donner des pistes très concrètes aujourd'hui, mes très chers amis, pour pouvoir affronter les rendez-vous médicaux, et je dis affronter à dessein. Nous avons la chance d'être en la délicieuse compagnie aujourd'hui d'Abigaël Déby. Salut Abigaël.
Salut.
Abigaël est médecin urgentiste. Elle a récemment publié sur Instagram une série de plusieurs textes magnifiques sur l'état de délabrement de l'hôpital. Eva Tapiero, Eva, bonjour.
Bonjour.
Eva est co-autrice avec Maud Le Reste du livre Les patientes d'Hippocrate, une enquête sur le sexisme en médecine. Ma première question, elle est un peu large, mais je pense qu'elle est intéressante. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, la médecine est la même pour tout le monde ? Eva, je te vois lever les sourcils.
Oui, mais je crois que c'est clair que non, elle n'est pas du tout la même pour tout le monde. C'est... Alors, en théorie, elle devrait, ou en tout cas, elle devrait s'adapter justement à chaque personne. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et au contraire, il y a un certain nombre de groupes de personnes qui sont maltraitées, qui sont négligées. Et je crois qu'Abigail peut un peu en parler même mieux que moi.
Alors oui, moi je pense que la médecine n'a jamais été la même pour tout le monde dans notre pays, ça c'est évident. Et ça a plusieurs, y a plusieurs raisons à cela. Je pense que nos études de médecine ne nous préparent pas du tout à, disons, embrasser la diversité de la société. C'est vraiment quelque chose qui est un impensé. La médecine, elle est bourgeoise, elle est blanche, elle est sexiste, elle est empreinte de patriarcat. Ça, c'est une évidence. Et elle ne pense pas du tout... elle est très en retard sur les évolutions de la société. Elle ne les prend pas du tout en compte. Moi, ça fait quand même un certain moment que j'ai fait mes études, mais c'est clair que durant mes études, le patient type, il est blanc, il est cisgenre, il est hétérosexuel, il a une corpulence normale, et voilà. Et tout le reste, en fait, est totalement nié. Donc, on n'est même pas à se demander comment prendre en charge la transidentité, par exemple. Ça n'existe pas, tout simplement. Et nos propres vécus, nos propres origines sociales, notre orientation sexuelle, etc. Moi, je suis lesbienne, par exemple. C'est quelque chose qui n'est jamais pris en compte, jamais abordé. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous, on est entraînés à voilà, prendre en charge un patient type qui est un archétype, en fait, qui n'existe pas. On a tous nos spécificités. Et cette médecine, d'une autre manière, et de plus en plus, elle devient de plus en plus inégalitaire parce que le système est complètement saturé et que l'accès aux soins est de plus en plus difficile et que défendre une médecine gratuite, voilà, accessible à tous, ça devient vraiment impossible, en fait. La médecine est en train de devenir un luxe, en fait.
Abigail, j'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu nous lises un des extraits d'un des textes que tu as publié sur Instagram. Donc, c'est une série de textes que tu as publié qui s'intitule « Mal traité » avec un espace entre les deux. Et voilà, je vous laisse découvrir.
Alors, c'est un extrait d'un texte qui s'appelait « Salle d'attente ». Ce qui est certain, c'est que je sais où se trouvent les plus vulnérables d'entre nous, dans la salle d'attente, concentrés explosifs de toutes les injustices sociales et des aberrations criantes d'un système qui ne fait même plus semblant d'être solidaire. Qui attend des heures et parfois meurt avant d'être soigné ? Les pauvres, les marginaux, les malades psychiatriques, les sans-papiers, les non-francophones, les très vieux très seuls, les trop malades, trop polis pour se plaindre. J'ai travaillé 10 ans à Bichat. Là-bas, la salle d'attente suscite l'effroi des soignants comme des patients. Certains SDF y élisent domicile pendant l'hiver. L'un d'eux y vivait depuis des années. On l'y a retrouvé mort un matin. Au revoir, Momo. Ce n'est pas un sas, c'est un brasier. Les agents d'accueil sont protégés par des vitres en plexiglas. Les insultes pleuvent sur eux toute la journée. Les vigiles ne viennent plus seulement quand on les appelle, ils sont là 24 heures sur 24. Les portes sont régulièrement explosées par des patients à bout de nerfs ou des familles excédées. J'ai un peu honte de le dire. Je fais tout pour ne pas m'y rendre. La vue de ma blouse blanche y suscite trop d'espoir. On m'y alpague, on me supplie, on me demande de l'aide, des comptes, des explications, combien de temps ça va prendre, comment c'est possible, un verre d'eau, si on a été oublié, qui est responsable de ce carnage, un antalgique, mon nom pour porter plainte. Je m'excuse, je compatis, je dis, moi aussi ça me fait souffrir. La vérité c'est que ça pue. Tu la connais l'odeur de la misère et de l'angoisse, c'est aussi celle de la honte, l'odeur d'une société en putréfaction qui a choisi son camp depuis bien longtemps.
Ce texte, il est extrêmement fort. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, les médecins, vous êtes contraints de maltraiter les patients ?
Absolument, c'est évident. Aux urgences, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'en est même plus à se dire « Alors, dans quel service je pourrais hospitaliser ce patient ? Comment je peux faire pour lui mettre le traitement adéquat, etc. ?» On en est en fait à ne plus avoir assez de brancards pour allonger des gens. On laisse des gens de 90 ans, 24 heures assis. On n'a pas assez de chaises, on n'a pas de couverture. On n'a pas de repas pour les patients. Parfois, il faut appeler 45 hôpitaux pour pouvoir transférer un patient qui a une fracture du col du fémur. Voilà. Et donc, il y a des patients qui vont rester 48, 72 heures sur des brancards, avec évidemment une aide-soignante pour tout le service. Et donc, ils vont se pisser dessus, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire. Ils vont se retrouver, rien que la semaine dernière, j'ai eu un patient de 38 ans qui avait une pneumopathie bilatérale, c'est avec de l'oxygène.
C'est quoi une pneumopathie bilatérale ?
Ah, pardon, c'est une infection pulmonaire qui touche les deux poumons.
Okay.
C'est très, très c'est douloureux, on est gêné pour respirer, on a de la fièvre, c'est l'équivalent d'une méga grippe, on va dire. Et du coup, il n'était pas bien du tout et il n'y avait pas de place pour lui. Et il était dans une salle commune avec 6 ou 7 autres patients, dont des patients déments qui criaient, etc. Et il s'est retrouvé en fait sous une clim qui ne marchait pas. Et donc, il devait faire 10 degrés. Et il est resté à claquer des dents et à frissonner comme ça pendant 48 heures parce qu'il n'y avait pas de place. Voilà. Donc, on en est à ce stade-là, en fait, avec des gens qui sont dans des couloirs tout nus. Voilà. On en est à ce niveau-là, en fait, à demander des couvertures. On n'est même plus à parler de chimiothérapie ou de choses comme ça. On veut juste de l'eau et des couvertures, voilà. Donc, c'est de la médecine de brousse, voilà. C'est comme ça que je qualifie la médecine d'aujourd'hui, quoi.
Est-ce que les urgences, du coup, ça reste un endroit fiable, selon vous ? Eva, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je suis effarée par ce que j'entends. Pas spécialement étonnée, mais en fait, c'est toujours... c'est hyper violent, en fait, de l'entendre par des mots, en fait, très concrets, comme ça. Quand on entend des personnes qui attendent, 48 heures en train de grelotter de froid, qui n'ont pas de couverture aux urgences, ça paraît délirant. Moi, ce que je disais tout à l'heure, justement, c'est que, personnellement, par exemple, j'ai peur. Moi, c'est-à-dire que je me dis, j'espère que je n'aurai jamais à aller aux urgences. En fait, ça paraît hallucinant de se dire ça, d'autant plus parce que je suis une femme et encore, je suis blanche, je suis bourgeoise, etc. Mais je me dis, en fait, c'est terrifiant de se dire qu'on est obligé d'aller aux urgences. Je trouve ça terrifiant. On voit tout un tas de gens, même sur Twitter ou partout, qui disent en fait leur peur d'y aller et leur effroi quand ils y sont allés ou quand ils ont accompagné un proche. Et non, en fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, aller aux urgences, c'est un peu la loterie. On peut avoir du bol. On tombe sur un soignant qui particulièrement veut faire attention à nous, se mettre en burn-out pour nous aider. Donc là, OK, on peut avoir de la chance, ça tombera sur lui, le burn-out. Mais sinon, non, on n'est plus safe, en fait. Et moi, je trouve ça effrayant, vraiment.
Abigail, tu dirais que c'est plus un espace safe, ou en tout cas plus un espace fiable ?
Non, on n'est pas du tout dans les conditions où on peut travailler correctement parce que les délais d'attente sont monstrueux. Donc forcément, si vous venez et que vous êtes malade, 12 heures après, vous serez encore plus malade. On est arrivé à un stade qui est au-delà de la saturation. On ne peut plus prendre en charge tout le monde. Et pour réfléchir à ça, il faut réfléchir à l'amont, qui est qu'il n'y a plus de médecins traitants et que les gens sont tellement désespérés qu'ils viennent aux urgences. Ils savent qu'ils vont attendre parfois 10, 12, 14 heures pour voir un médecin. Mais alors qu'avant, ils partaient, au bout de 4-5 heures, ils disaient « bon, bah tant pis, je vais aller trouver autre chose ». Maintenant, ils se préparent à passer la nuit aux urgences en se disant « de toute façon, je n'ai pas d'autre choix ». Et même pour des consultations totalement bénignes, ils vont attendre 14 heures parce qu'il n'y a plus de médecin traitant. Et on se retrouve, nous, urgentistes, en fait, à devoir absorber, on va dire, tous les dysfonctionnements du système de santé qui n'ont pas été pensés, c'est-à-dire la médecine générale qui est complètement en déshérence, et toutes les autres spécialités, la psychiatrie et d'autres spécialités. Mais nous, on ne peut pas être ophtalmo, cardio, assistante sociale, pneumologue, cancérologue et médecin généraliste. On n'est même pas formé vraiment pour ça. On a fini par se former sur le tas, donc je pense qu'on est vraiment devenus des MacGyver de la médecine. Franchement, personnellement, je pense que je peux traiter un nombre de pathologies assez hallucinant, mais c'est pas souhaitable, en fait. Et puis, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et pareil, la frustration de se dire qu'on attend 10 heures pour être vu par un médecin et qu'après, on a 5 minutes à vous consacrer, parce que le problème n'était pas très grave, mais c'est atroce, en fait. Donc, non, c'est sûr que moi, j'ai l'impression de travailler contre mes valeurs. Et j'ai quitté l'assistance publique. Je travaille à l'hôpital Bichat, qui est un des plus gros hôpitaux de l'assistance publique, avec une population extrêmement précaire, où j'ai travaillé pendant presque 10 ans. J'ai quitté ces urgences parce que je commençais à trouver ça vraiment difficile. Et je suis partie dans un hôpital plus petit, en banlieue. C'est pareil, quoi. Je travaille clairement tous les jours contre mes valeurs. Et j'ai honte de prendre en charge les gens comme ça, quoi.
Et dans ce système-là, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'on voit encore des soignants ou des soignantes, mais je pense plus de soignants, qui râlent après les patients qui vont aux urgences, en fait, en disant « mais les urgences, c'est fait pour les vraies urgences, que faites-vous là ?» etc. Mais en fait, si on atterrit là, c'est pas forcément par envie, en fait. C'est parce qu'en effet, comme ce que tu disais tout à l'heure, Abigail, en fait, on n'a pas le choix. Quand on n'a plus de médecin traitant, ça dépend où on habite en plus, parfois, on est obligé d'atterrir aux urgences, même si on sait qu'en effet, ce n'est pas une pathologie qui devrait être traitée par les urgences. Donc, on est en plus culpabilisé en tant que patient parce qu'on ne fait pas les bons choix, quoi.
Eva, dans ton livre, tu parles d'un phénomène qui s'appelle le syndrome méditerranéen. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
Oui, alors le syndrome méditerranéen, c'est assez drôle parce qu'en fait, moi, j'en ai entendu parler parce que ma maman est infirmière et donc c'est elle qui m'en a parlé en premier. Et elle est infirmière en gynécologie. Enfin, elle a été longtemps l'infirmière en gynécologie. Et donc, le syndrome méditerranéen, c'est en fait quand... c'est évidemment un faux syndrome, hein, ça n'existe pas. Mais c'est l'idée répandue parmi les soignants selon laquelle les personnes méditerranéennes, donc là, il faut entendre en fait personnes racisées, hein, grosso modo, seraient plus... vont accentuer en fait leur douleur. Donc en fait, ils ont mal, mais en fait, ils vont être excessifs, ils vont en faire beaucoup trop. Donc en fait, ce qui fait que quand on entend des personnes racisées crier, en fait, on va pas vraiment les prendre au sérieux. On va se dire, oh, ça va, c'est juste qu'ils en font beaucoup, ils en font trop. Et c'est notamment le cas en gynécologie, en obstétrique, où quand des femmes arrivent, sont prêtes à accoucher, ont hyper mal, etc., et crient leur douleur, on dit, mais ça va, en fait, c'est rien du tout, parce que c'est juste qu'elles en font trop, et voilà. Donc, ce qui fait que, avec cette idée-là, avec cette idée que le syndrome méditerranéen existe, on ne va pas traiter la douleur de ces personnes-là de la même façon qu'on aurait traité les douleurs d'une femme blanche, par exemple. Et ça, en fait, ce qui est assez dingue, c'est quand on en parle souvent aux soignants, ils font un peu semblant de dire que ça n'existe pas ou qu'ils n'ont pas trop entendu. Alors qu'en fait, quand on parle à tout un tas d'autres soignants, on se rend compte que c'est encore hyper généralisé et que c'est quand même quelque chose qui existe vraiment dans la parole. Enfin voilà, c'est assez répandu quand même.
Abigail, tu confirmes ?
Ah, je confirme totalement. Même si j'ai l'impression de l'entendre un tout petit peu moins, mais... J'ai une anecdote encore très récente et horrible d'une patiente noire qui est arrivée il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines aux urgences là où je travaille, et qui se roulait par terre de douleur en criant, et qui avait une présentation, effectivement, voilà, elle criait, elle hurlait, on n'arrivait pas très bien à comprendre ce qu'elle avait. Elle s'est retrouvée en box d'isolement psychiatrique, attachée aux quatre membres, jusqu'au moment où elle s'est mise à saigner. En reprenant les constantes, on a vu qu'elle avait une tension très basse, qu'elle était, qu'elle avait une tachycardie. Et en fait, elle était en train de faire une grossesse extra-utérine, et elle a failli mourir.
Ah putain.
Voilà. Donc, elle a été sauvée de justesse, mais bon, on se rappelle de Naomi Musenga. Et oui, le syndrome méditerranéen, c'est quelque chose que certains soignants voilà, expriment encore. Ça, c'est une évidence. Et ça, évidemment, les conséquences, elles peuvent être mortelles, en fait.
Mais en plus,
on
même
peut
si...
rappeler, par exemple, l'histoire de Naomi Musenga, si vous pouviez la réexpliquer.
Oui, alors, moi, je me souviens plus de quoi elle était... quelle est sa pathologie. Je me souviens plus de la pathologie qu'elle avait, mais en tout cas, c'est une femme, il me semble, dans l'Est, hein, je sais plus si c'était à Strasbourg ou quelque chose comme ça, qui appelait les urgences, qui appelait les pompiers... parce que bah voilà, elle avait des énormes douleurs et elle disait à l'opératrice en fait du SAMU ou des pompiers, je sais plus, qu'elle était qu'elle avait l'impression qu'elle allait mourir. Et au téléphone, on s'est moqué d'elle en fait. Les personnes riaient en disant oui, bah oui, tout le monde meurt un jour, etc. Et en fait, tous ces organes, je sais plus comment c'est, organ failure, là, comment, bon, tous ces organes sont en fait morts et elle est morte. En effet, donc c'était, mais on l'a pas prise du tout au sérieux en fait. On a entendu cette personne dire, je vais très mal, j'ai des douleurs incroyables, et en effet elle devait avoir des douleurs délirantes, et personne ne l'a prise au sérieux, et cette femme est décédée ensuite. Et ça, mais ça arrive très régulièrement, et j'ai lu il n'y a pas si longtemps une enfant, une adolescente qui avait 15 ans et qui est décédée d'un cancer du sein. Sa maman l'a amenée pendant des mois voir plusieurs spécialistes, et on lui riait au nez en lui disant, mais madame, on peut pas avoir de cancer du sein à cet âge-là. Et jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, ben, en effet, c'était un cancer du sein, mais bon, quand on le prend en charge un an plus tard, ben, c'est en fait un peu trop tard. Et donc cette adolescente est décédée. Et ça, c'est, enfin, ça paraît fou en fait, parce que même quand c'est pas en fait dit comme ça, c'est-à-dire que même quand des soignants vont pas forcément parler de syndrome méditerranéen, c'est quelque chose qui infuse en fait. C'est-à-dire que c'est un peu aussi inconscient. On se dit, il y a un truc inconscient que bah, les personnes racisées en font trop. Point. Et donc, collé en plus sur le fait que les femmes, on les prend pour des hystériques, ou que, effectivement, les pathologies, on a tendance à les psychologiser. Hein, ce que tu disais sur cette femme qui, d'un seul coup, elle a des douleurs, boum, on la met en truc psy. Ah bon, mais pourquoi ? Ben, ça fait, c'est un cocktail détonnant, quoi.
Oui, ce que tu racontes, enfin, ce que les chiffres que tu cites dans ton livre sont très éloquents. Eva, par exemple, en France, 56% des femmes meurent quand elles font un infarctus contre 46% des hommes. Parce que souvent, quand elles arrivent aux urgences, on leur diagnostique une crise d'angoisse quand elles ont les symptômes d'une crise cardiaque.
Oui, c'est ça, mais il faut aussi penser que souvent les études scientifiques ne prennent pas trop en compte les femmes. Ils ont tendance à les oublier. Et d'une façon générale, comme je disais, le patient type, c'est un homme de corpulence normale, etc. Et c'est ça qui peut causer des drames. Peut-être qu'on en reparlera, mais c'est pareil pour les patients et les patientes gros et grosses. Les dosages des médicaments ne sont pas étudiés pour eux. Et c'est pareil pour les femmes. En fait, on sait que les femmes, elles ont une présentation clinique de l'infarctus qui est différente. Et c'est seulement maintenant qu'on commence à se dire, ah, peut-être qu'il faudrait réfléchir au fait que l'infarctus, c'est pas l'homme qui se tient la poitrine et qui a mal dans les mâchoires et dans le bras. C'est pas que ça, en fait. La femme, ça peut être des nausées, des douleurs dans le dos, un certain inconfort, etc. Et non, c'est jamais pensé. D'une façon générale, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui sort de ce patient en type est considéré comme un problème. Un patient aux urgences, s'il est trop gros, s'il est handicapé, s'il n'est pas blanc, s'il ne parle pas français, s'il est trop pauvre, etc. En fait, toute déviation de cette norme imaginaire est un problème. Et en plus, comme c'est jamais pensé en amont, qu'on n'en a jamais discuté, que c'est jamais étudié, et que d'une façon générale, la médecine, dans nos études de médecine, on ne nous apprend jamais à réfléchir sur le fait que la société, elle est multiculturelle et qu'on est, on est tous différents. Ben, c'est comme ça qu'on fait une médecine inhumaine, en fait, parce que... Voilà.
Comment faire pour être entendu ou être cru ? Est-ce qu'il faut crier plus fort que les autres ?
Mais Je pense que crier, c'est pas forcément... sinon, tu te retrouves attaché, en général. Non, mais c'est difficile. Après, je pense que c'est très, très soignant dépendant. Il y a des gens qui essayent de bien faire. Il faut aussi dire qu'il y a un niveau d'épuisement global, à la fois des patients et à la fois du soignant. Et quand ce face-à-face se produit après des heures d'attente, par exemple, le soignant peut être de garde depuis 20 heures, n'avoir pas dormi, n'avoir pas mangé, etc. Il peut être excédé. On prend aussi beaucoup d'agressivité. On s'est tous fait agresser, hein, je veux dire... verbalement, mais aussi physiquement. Moi, je me suis déjà fait plaquer par terre, arracher des touffes de cheveux, déboîter l'épaule, etc. Il faut quand même penser à ça, en fait. Y a la souffrance des patients, elle est là, la souffrance des soignants, elle existe aussi. Et les agressions, elles sont légion. Hein. On est vraiment obligé d'avoir un service d'ordre hein, pour assurer notre sécurité. On en est à ce stade-là. Après, je pense que oui, il faut insister et espérer tomber sur un soignant compatissant. Malheureusement, j'ai pas de recette miracle à donner. Quoi.
Non, bien sûr, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la fatigue. Peut-être que parfois, avoir un mot à l'adresse du soignant en disant « je sais que vous êtes fatigué, je sais que ça fait longtemps que vous n'êtes pas dormi, mais s'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez-nous », peut-être que déjà, ça peut créer un canal de communication.
Mais c'est même une relation... c'est bilatéral, en fait. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que... j'essaye d'humaniser ma pratique aussi. Après, bon, c'est des questions de tempérament, hein, on n'est pas tous pareils, mais des choses très très simples. Moi, m'évite, d'une façon générale, ça fait presque 15 ans que je fais des urgences et j'ai jamais eu de plainte grave. Ça m'est arrivé de me faire insulter comme tout le monde, voilà. Mais juste des choses très bêtes, hein, dire bonjour. Mais on en est à ce stade-là, en fait, de déshumanisation des pratiques. Juste dire bonjour, je suis désolée pour l'attente. Je m'appelle Abigail Déby, je suis médecin, parce qu'en fait, une blouse blanche, ça peut être autre chose qu'un médecin. Voilà ce que je vais faire. Voilà combien de temps ça va prendre de façon indicative. Voilà ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Je ne peux pas aller chez Ikea, vous trouver un lit. En fait, je ne peux pas. Mais par contre, et après, quand les gens attendent, parce qu'après, tout ça, ça prend du temps, faire une prise de sang, demander un scanner, demander un avis spécialisé, trouver un lit, j'en parle même pas. Mais juste, quand on repasse devant la personne, je ne vous ai pas oublié, je vais rappeler le radiologue, je pense à vous.
Bien sûr.
Mais juste des choses comme ça, et ben ça fait tout de suite baisser le niveau de pression. Et après, les gens sont conscients que nous aussi, on galère en fait.
Je voulais juste rajouter un truc parce que là on parle vachement des urgences et c'est hyper important, mais en fait souvent on se retrouve dans des cas de sexisme, de racisme, sont aussi dans les cabinets libéraux, les cabinets médicaux, et là je crois qu'en fait il faut pas du tout, il faut se lever et se casser, en fait c'est un peu la même c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que alors évidemment c'est compliqué, parfois je sais que dans certains territoires on peut pas avoir accès à 300 gynécos ou 200 ophtalmos, mais en effet si on n'est pas respecté, si notre consentement n'est pas respecté, si on n'est pas écouté, en fait, on change de praticien. On ne doit rien à un médecin, en fait. On y va pour des conseils, pour être soigné. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter. En fait, je pense que on n'a pas du tout ce réflexe-là en France. On a vraiment encore le truc de le médecin, c'est le sachant, on l'écoute à fond. Et oui, en effet, il va nous apporter normalement du bien-être et de la santé. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à partir, quoi, vraiment.
Tout à fait. Mais alors, je pense que c'est vrai, il ne faut pas hésiter à partir, à changer de médecin. Mais alors, hélas, c'est quand même... souvent, on change et on se retrouve exactement face à la même situation. Surtout quand on est dans une situation peut-être d'errance ou de pathologie un peu complexe. Je vais me permettre un petit aparté, moi, de faire une confidence. Mais j'ai eu un accident de trottinette. Alors, ça paraît idiot comme ça. Mais qui, après, où j'ai passé 2 ans de ma vie à peu près dans l'antichambre de l'enfer avec des douleurs chroniques terribles que personne n'a pris au sérieux pendant 1 an et demi. Et donc... je crois qu'il y a quand même aussi une façon de s'adresser au corps médical. En tout cas, moi, il y a un savoir-faire que j'ai un peu développé à force de m'en prendre plein la tronche, qui est aussi utile. Et moi, parfois, j'ai l'impression qu'il faut parler aux médecins. Alors, vraiment, vous allez me dire, un peu comme à des enfants, c'est-à-dire fermement et de façon très claire. Genre, monsieur, j'entends bien ce que vous me dites, mais je présente ces symptômes. Nanani, nanana, depuis 6 mois, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la médecine occidentale n'aime pas dire « je ne sais pas ». Et moi, j'ai fait ma thèse, c'est un hasard, hein, mais c'est peut-être intéressant pour notre conversation aujourd'hui, sur les symptômes inexpliqués en médecine générale.
Ah, bah super.
Parce que, en fait, moi, j'ai fait toutes mes études en CHU. Et en CHU, c'est vraiment une toute petite fraction des patients. C'est-à-dire des patients qui ont des pathologies complexes, bien identifiées, qui font bien plaisir à la médecine. C'est-à-dire où on va faire plein d'examens, c'est compliqué sur le plan scientifique, etc. Les maladies auto-immunes et tout ça. Et puis, quand je me suis retrouvée en stage de médecine générale, Ben, j'ai rien compris, en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces patients qui viennent, qui nous décrivent des trucs complètement improbables? Et j'ai pas de réponse. C'était, oui, mais je sais pas, quand je me mets sur un pied et que je me bouche une oreille, j'ai mal au ventre. Et tous les patients avaient des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, les patients. Ils ont pas des maladies, en fait, je sais même pas si c'est des maladies. En tout cas, une souffrance que la médecine occidentale n'était pas capable de prendre en charge. Et en fait, au lieu de dire, je ne sais pas. Et en fait, on pourrait dire aussi, on pourrait imaginer qu'un médecin dise « Je ne peux rien faire pour vous, je suis désolée. » Peut-être que ça se passerait mieux, en fait.
Ça ferait plus de bien que d'entendre « Détendez-vous ».
Ça ferait plus de bien que ça. Mais au lieu de ça, les médecins, ils ont des stratégies d'évitement pour repousser au maximum ce moment, qui peut-être n'arrivera jamais, et qui fera en sorte que, peut-être comme toi, tu vas aller voir toutes sortes de spécialistes, t'épuiser, souffrir encore plus, etc. Donc, les différentes stratégies, en général, c'est multiplier les examens. Donc, on va vous faire tous les bilans sanguins de la Terre, tous les scanners de la Terre, etc. Vous adresser à d'autres spécialistes. Vous dire c'est dans la tête.
Oui, ça, le psy, voilà. Évidemment.
Ce qui n'est pas toujours...
C'est le stress.
C'est le stress, c'est la joker, dépression, ça, c'est etc. Donc, ça, c'est le joker. Et voilà. Et au lieu de dire juste je ne sais pas.
Voir carrément, il n'y a rien. Genre, vous n'avez rien,
oui,
madame.
Vous n'avez rien, et vous êtes folle, en fait.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose que les médecins ont beaucoup de mal à faire. Et je crois qu'il faut vraiment pas... Pour moi, un bon médecin, c'est un médecin qui connaît ses limites et qui sait dire soit référer à quelqu'un d'autre, soit dire vraiment, je pense que je ne suis pas sûre que la médecine puisse quelque chose pour vous. Voilà.
Comment faire quand on se fait interrompre tout le temps? Quand on commence la consultation, certains praticiens, ils passent leur life à nous interrompre.
Il y a des études qui montrent que si le médecin laissait parler le patient une minute, c'est rien, une minute, eh ben, les consultations se passeraient mais tellement mieux, les diagnostics seraient beaucoup mieux faits. Et après, effectivement, moi-même, moi je suis très très bavarde, etc. Mais moi-même, j'ai essayé de faire ça, et ben, c'est hyper dur, en fait. Parce que aussi, on est pris par... Alors après, moi, je ne suis pas dans la position du médecin généraliste, mais je pense que les médecins généralistes, malheureusement, font autant d'abattage qu'aux urgences. Hein, maintenant, je pense que c'est l'affaire de 5 minutes aussi. Hein. Et du coup, on a envie de ramener le patient vers des questions fermées, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est très, très dur. Et en fait, quand on fait l'effort de faire ça, en général, on apprend des choses qu'on n'aurait pas été capable de chercher nous-mêmes.
Je me souviens d'une fois où j'avais rendez-vous chez une dermato. Je parlais, j'expliquais mes symptômes tout en me déshabillant parce qu'elle me disait il faut vous déshabiller tout de suite, etc. Donc j'expliquais les trucs que j'avais en me déshabillant. Et puis pareil en me rhabillant. Enfin, vraiment, c'était fou furieux parce que du coup, je ne savais même plus ce que j'étais en train de dire parce que j'étais en train de me déshabiller, faire le truc et tout. Et quand j'ai voulu lui poser une deuxième question, elle m'a dit ah non, mais là, on pose pas deux questions pendant une consulte, il faudra reprendre un rendez-vous. Et je me suis dit, en fait, j'étais figée, j'ai payé, je pense, 100 balles, je suis sortie, la consultation durait 7 minutes, et j'étais épuisée après ce truc-là, qui m'a rien apporté, et je me suis dit après, mais en effet, il faut arriver préparé. C'est-à-dire que, oui, on peut pas changer la personne qui va être en face de nous. Si elle a décidé de ne pas nous écouter, elle ne nous écoutera pas. Mais c'est vrai que si on arrive en se disant « Attention, je dois être écoutée. Attention, j'ai 2-3 messages clés à faire passer. »
Voilà, lister les questions qu'on veut poser
avant.
Absolument.
Je pense que vraiment, c'est important. Et même d'ailleurs, si on doit partir, je pense que c'est important d'être préparé parce que parfois, on est figé aussi par la violence et par la peur.
Bien sûr, ouais.
Et alors que si on se dit avant « J'ai le droit de partir, j'ai le droit d'interrompre, j'ai le droit de faire ça et ça », en fait, je pense qu'on est plus fort vraiment pendant la consulte. Et clairement, arriver préparé, je pense que c'est fondamental.
Et le mépris dont font preuve certains soignants, mais juste c'est un petit mépris, comme ils vous parlent comme à des sales gosses où tu poses une question, on dit attends, c'est pas le moment là, ça blesse, ça peut vous blesser
bien
vraiment
sûr.
Profondément, ça, faut se blinder, hélas on est obligé de se blinder quoi,
mais ouais, complètement, ouais. Et je pense aussi qu'il y a, en fait la consultation c'est vraiment un lieu de déséquilibre total, et je réfléchissais un peu à comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux. Déjà, je pense que les soignants réfléchissent jamais sur eux-mêmes. Les soignants ont une façon très différente de prendre en charge leur propre santé. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, les médecins se soignent très mal. Je sais pas, mes amis, elles vont voir le gynéco une fois par an. Moi, franchement, ça fait 10 ans, hein, depuis que j'ai accouché, hein, que j'ai pas vu de gynéco.
Oui, c'est comme les enfants de médecins, hein, ils n'ont jamais de médicaments, ils
exactement.
Ont rien.
Donc nous, on a une façon d'aborder notre santé qui est totalement différente. On se néglige, on se soigne entre deux portes, on bricole avec nos collègues, avec nos connaissances, etc. On a tendance à pas s'arrêter non plus. Et il y a toujours cette vision de la médecine qui est un sacerdoce. On s'engage en médecine, comme, je sais pas, on rentre dans les ordres, etc. Ça, c'est encore très, très, très présent. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer parce que les gens gueulent, ils ont envie d'avoir une qualité de vie, ils veulent plus travailler 100 heures par semaine, etc. Mais il faut savoir que quand même, globalement, quand on fait médecine, on doit se sacrifier, quoi. Il faut montrer qu'on travaille. Voilà, moi, j'ai déjà travaillé, je sais pas, 39 heures d'affilée. d'affilée sans dormir. Voilà. Et ça, c'est bien vu. Et on dit, et on se dit toujours, ouais, moi j'ai été travailler avec 39 de fièvre, moi j'ai travaillé avec un plâtre, j'ai fait ci. Et c'est vraiment, on a cette vision-là. Et donc, du coup, il y a certains soignants qui comprennent pas qu'un patient vienne pour un symptôme qui pour eux leur paraît vraiment complètement anecdotique.
Ah, ils sont tellement habitués à se violenter eux-mêmes.
Mais oui, voilà. Donc déjà ça, ils prennent pas soin non plus de leur santé mentale et de leur épanouissement personnel. Et personne durant tes études de médecine va te dire attention quand même. Il faudra faire attention à te préserver des passions, une vie en dehors de la médecine, à t'occuper de, enfin je sais pas, de ton couple, tes amis, tes enfants si t'en as. C'est vraiment donc déjà ça, c'est très très déséquilibré. Et après, je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus globale à avoir, qui est que le médecin détient un savoir qui, en fait, il n'y a aucune raison qu'il monopolise ce savoir. C'est-à-dire que la connaissance de notre propre corps, de notre anatomie, du fonctionnement de notre corps, c'est incompréhensible pour moi que ce soit réservé aux médecins. Et je ne comprends pas, en fait, que dès l'école maternelle, on ne nous apprenne pas comment fonctionne notre corps et pourquoi en primaire, on nous apprend, je ne sais pas moi, la circonférence de Jupiter et qu'après, on ne sache pas placer nos propres organes dans notre propre corps. Et je pense que si on réfléchissait aussi globalement au fait que le savoir peut se redistribuer et que la médecine de base, la physiologie de base, l'anatomie, elle est accessible à tous et que ça devrait être... dans les programmes Bien de sûr. L'éducation nationale, ben je pense que déjà, on partirait avec des bases qui sont plus saines. Et le médecin, du coup, servirait à autre chose qu'à dire « Mais non, vous savez, un rhume, c'est juste, c'est pas grave. » Ou « Là, c'est un hématome, c'est pas grave. » J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une réflexion beaucoup plus globale à avoir sur ce savoir qui pourrait se redistribuer. Quoi.
Bien sûr, et puis il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine pour lire des articles de recherche scientifique. Hein. Enfin, on peut lire, on peut s'intéresser, on peut...
Exactement.
Enfin, voilà, on peut... C'est vrai, nous, on habite dans notre corps, on le connaît quand même mieux que n'importe qui d'autre. Recommandez-vous de venir accompagner quand on le peut, du coup, à des consultations, Eva ?
Ben oui, franchement, oui. Et puis, ça, on voit la différence. D'abord, je pense pour soi aussi, hein, tout simplement, pour se sentir un peu plus fort. Si on doit résister ou si on doit être un peu préparé, comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est important. Et puis, oui, malgré tout, quand on est deux face à quelqu'un... Alors après, il y a des médecins qui ne vont pas forcément accepter qu'on rentre, par exemple, dans le cabinet à deux. Ça, c'est une chose, je peux l'entendre. Mais même si on a quelqu'un qui est dans la salle d'attente, on sait qu'on est quand même accompagné, aidé, etc. Et puis, ce qui est terrible à dire, c'est que... Et là, ce qu'on avait montré dans le livre, par exemple, c'est que ben, parfois, en fait, la parole d'un homme va faire qu'on va être sauvé.
Ah oui,
en fait.
Est-ce que tu peux raconter l'exemple que tu cites dans le livre de cette femme qui a été sauvée parce que son mari a insisté ?
Parce que son mari a insisté, en fait. Bon, c'est une femme qui faisait un infarctus du myocarde. Et bon, alors elle-même, en fait, on a tellement intégré en tant que femme que c'était normal d'avoir mal, normal d'avoir des douleurs, etc., qu'elle-même, elle n'était pas forcément à fond pour appeler les secours, etc. Une fois qu'elle appelle, bon, on la prend vraiment pas du tout au sérieux. Et il faut que ce soit son mari, en fait, et pareil, arriver aux urgences, qui prennent la parole, qui prennent le relais, qui disent en fait, si vous allez regarder, c'est un infarctus du myocarde ou c'est peut-être le cas, etc. Sachant que sa sœur, elle, était déjà décédée d'un infarctus.
La sœur du mari, avait ça en tête.
Voilà. C'est ça. Donc en fait, il y a quand même quelque chose qui est là fondamental. Et c'est grâce à un homme que cette femme a été soignée et qu'on a pris au sérieux ses douleurs, qu'on a pris au sérieux ses symptômes pour aller soigner son infarctus du myocarde, en fait. Et ça, bah, en fait, c'est terrible. Mais jusqu'à ce que ça change, jusqu'à ce qu'on soit considéré à égalité, bah, c'est à nous de nous armer, en effet, dans ce sens-là.
Moi, j'avais listé 3 conseils, peut-être, ou astuces. Ça me faisait beaucoup de bien de m'être conditionnée avant d'aller à un rendez-vous médical, que je n'allais pas être rassurée, que ce n'était pas des psys. J'ai une amie racisée qui va toujours chez le médecin en tailleur ou aux urgences, habillée en girl boss. Et enfin, alors, venir accompagner, c'est difficile, je trouve, quand on travaille, etc. Mais avoir quelqu'un au bout du téléphone, dire « Est-ce que je peux t'appeler si ça se passe mal ?» ou un petit texto, parfois déjà, ça, je trouve que ça aide. Et il y avait le New York Times qui avait fait un article et qui avait listé plusieurs phrases à dire aux soignants si on se sent pas écouté. Il y en avait une notamment qui disait « Est-ce qu'on peut faire une pause ? Je ne pense pas que vous m'ayez entendu. Je vais recommencer donc. » Ou alors « Ça fait plusieurs mois que je présente ces symptômes. Comment peut-on avancer ?» Enfin, des choses comme ça, un peu carrées, un peu claires. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, après, bon, moi, j'ai ma vision d'urgentiste. Je pense que, sincèrement, venir accompagner aux urgences, c'est une bonne idée, même si, dans la plupart des cas, les urgences sont tellement saturées qu'on a vraiment du mal à laisser rentrer les accompagnants. Donc, on les fait rentrer, par exemple, si la personne ne peut pas communiquer, démente, etc. Mais moi, en fait, en vrai, j'essaye de les faire rentrer parce que pour des choses tout bêtes, hein, comme la nourriture, un verre d'eau, tout ça, c'est vraiment eux qui vont s'occuper des patients âgés, etc. Et oui, je pense que la présence d'un proche, c'est très bien. Et je pense qu'il faut quand même être conscient du fait qu'on a très, très peu de temps. Et malgré tout, sans faire de reproches hein, aux patients, il faut quand même essayer d'aller à l'essentiel. Parce qu'on a quand même, des patients qui vont se perdre un peu dans les détails de leurs 10 derniers repas, etc. Et franchement, c'est trop dur. On peut pas, en fait. J'aimerais bien, hein, moi, pouvoir écouter les gens pendant 3 quarts d'heure. J'adore ça, en plus. Mais franchement, je peux pas. Donc vraiment, je pense qu'il faut rester sur des choses très concrètes. Si on a déjà fait des examens, il faut les amener, parce que les patients aussi disent « Ouais, j'ai fait une prise de sang » ou « J'ai pris tel traitement », mais ils sont pas capables de dire quoi. Je pense qu'il faut venir avec limite comme si on préparait un exposé, quoi. Ou limite un petit PowerPoint mental avec tout ce qu'on a fait, etc. Et il faut, malheureusement, il faut vraiment essayer d'aller à l'essentiel et de rester assez concret, quoi.
Je suis contrainte de vous interrompre quelques secondes. On se retrouve tout de suite.
On peut plus rien dire.
Mais on va le dire quand même.
Un grand merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander comment affronter les consultations médicales en la délicieuse compagnie d'Abigail et Eva. Et avant de continuer notre conversation, j'aimerais qu'on écoute un extrait du Serment d'Augusta. C'est un podcast extraordinaire qui a été créé ici chez Binge Audio pour repenser la relation soignant-soigné. Il a été réalisé par Olympe de G et Emmanuel Flamand-Rose, professeur et neurologue.
À l'origine de cet épisode, un stage d'observation au SAMU d'Avicenne, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Ce soir-là, c'est ma première nuit. J'accompagne l'équipe du SMUR. On est en février 2021, en pleine troisième vague de Covid. Beaucoup de nos sorties consistent à transférer des patients-patientes depuis les urgences d'un hôpital vers la réa d'un autre hôpital, ou encore de réa à réa spécialisée. Nous sommes à l'hôpital Jean Verdier, à Bondy. Nous venons chercher une personne que l'on doit emmener à Cochin, où viennent juste de s'ouvrir une dizaine de nouvelles places en réa. Nous entrons dans le box des urgences. Une femme nous attend, elle est consciente, elle est demi-assise. Elle a 45 ou 50 ans, les cheveux courts et blonds, des grands yeux affolés au-dessus de son masque à oxygène, avec l'O2 poussé à fond. Elle est petite et très corpulente. C'est donc une personne particulièrement vulnérable au Covid.
Bonsoir.
Bonsoir.
On vous amène une femme de 45 ans. Elle a appelé parce qu'elle avait une détresse respiratoire. On l'a retrouvée chez elle, on l'a mise sous 10 litres d'oxygène. Mais c'est possible que vous ayez besoin de l'intuber dans les heures à venir.
Ok, bah je vous laisse voir avec ma collègue parce que je pense qu'on va devoir la transférer.
D'accord, ok.
Bonsoir. Effectivement, il n'y a plus de place, il va falloir la transférer à Cochin. Thomas, okay. Est-ce que tu peux te charger de la changer de brancard?
Par contre, on va changer de brancard toute seule. Moi, je ne porte pas ça.
Je ne porte pas ça, ce qui dit le brancardier, pour faire référence à une personne grosse. Est-ce que c'est une scène banale, Abigail ?
Très banale. La prise en charge des patients gros et grosses, elle est vraiment... Elle est horrible, en fait. Il n'y a pas de matériel adapté. Il n'y a pas parfois d'ambulance. Il n'y a pas de chambre pour ce... Voilà, en fait, il faut une ambulance bariatrique, etc. Et les réflexions grossophobes, oui, elles sont légion. On sent très bien que c'est un problème, en fait. En fait, c'est voilà, d'une façon générale, les réflexions racistes, misogynes, transphobes, elles existent et elles font partie de cet humour qu'on aimerait bien voir disparaître, qui est l'humour de carabin, l'humour potache de salle de garde, qui est quelque chose d'historique hein, dans la médecine, qu'on supporte de moins en moins. Moi, je ne vais jamais manger en salle de garde parce qu'être entouré de fresques murales pleines de bites et de scènes de sodomie, ça ne m'intéresse pas trop, ça me dégoûte, hein, ça a tendance à plutôt me couper l'appétit. Donc quand même, je pense que c'est en train de changer un petit peu parce que la profession, elle s'est féminisée, elle se diversifie aussi. Hein, il y a de plus en plus de diversité parmi les médecins, mais ça bouge très, 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 très lentement. Donc, non, ça, c'est pas des réflexions qui m'étonnent.
Encore une fois, pour rester dans le domaine un peu concret, navré toujours y revenir, comment réagir si on est face à un médecin grossophobe, selon vous ?
Alors là, vraiment, je sais pas du tout. J'ai aucune idée de comment est-ce qu'on peut réagir à une chose. En fait, c'est très compliqué parce que... Moi, L'exemple que j'ai, en fait, sur la grossophobie, sur le racisme, etc., encore une fois, c'est ma maman qui me le raconte. Et en fait, c'est quand les personnes sont endormies sur la table d'opération. Et en fait, bon, bah là, on risque pas pouvoir réagir. Mais par contre, c'est ultra violent parce que je me dis, en fait, toutes ces choses qui se passent lorsqu'on est endormi juste avant une opération et la façon dont on se fait violenter. Et je peux pas imaginer qu'on se fasse bien soigner dans ces conditions, en fait, quand on nous respecte même pas le corps et la personne qui est à cet endroit-là. Après, quand on se prend vraiment une réflexion directement, j'ai l'impression que ça n'arrive pas forcément aussi de façon aussi radicale que ça. On ne va pas nous le dire en face comme ça. Donc, c'est difficile, je pense, de réagir. Et je ne sais pas trop comment, si on a cette sensation-là, on peut réagir à ce moment-là. Peut-être, si on se sent assez fort, mais c'est dur, parce que si on se prend une réflexion ou qu'on le ressent, c'est dur de pouvoir réagir directement, mais on peut être le call-out tout de suite, en fait, en disant mais c'est pas possible de me parler comme ça, ou c'est pas possible de me dire ça, puisqu'en fait, je suis un patient, je suis une patiente. Et peut-être, en fait, c'est une façon tout simplement, sans rentrer, monter dans les tours, mais juste de mettre en face la personne de ce qu'elle est en train de faire et de dire. Après, je pense que c'est hyper compliqué en réalité, parce que souvent, on se sent tout petit d'un seul coup, on se sent hyper écrasé, donc c'est difficile de réagir à une chose pareille comme ça.
Ah oui, surtout quand on est en situation de vulnérabilité. Et puis, je pense que quand on se prend une violence, d'une façon générale, il y a un effet de sidération.
Bien sûr.
Et alors, quand on est malade, c'est encore pire. Moi, je pense que vraiment, ce qui va peut-être changer les choses, c'est qu'il faut parler, en fait. Il faut vraiment parler. C'est ce qui se passe pour les maltraitances gynécologiques, obstétricales. C'est aussi ça qui fait qu'on développe des listes de soignants safe, que les médecins détestent. Hein. Franchement, ouais. Il faut bien savoir que la communauté médicale est hyper vénère de voir qu'on peut choisir son soignant, qu'on peut faire des listes, etc. Il y a toujours un petit point Godwin, ça, machin. Ils sont pas contents, hein. Globalement, mais moi j'encourage les gens, si vous trouvez un médecin qui est sympa avec les noirs, avec les trans, avec les gros, allez-y quoi, partagez, diffusez et foutez la honte aux autres en fait. Moi je pense qu'il faut pas avoir honte de ça, et plus on va parler, plus on va s'organiser collectivement en tant que patient, soignant, pour dénoncer ces violences, ça marche quand même. Par exemple, sur le plan de la gynéco et de l'obstétrique, on voit que ça bouge quand même. Il y a des médecins qui vont être condamnés, il y a des choses qui seront plus tolérées, donc je pense que libérer la parole et s'organiser collectivement pour refuser ces maltraitances, c'est très très important. Et très récemment, par exemple, j'ai partagé un texte sur moi, ce qui m'est arrivé quand j'ai fait une fausse couche précoce et que j'ai dû avoir un curetage et que je suis passée de l'autre côté sans dire que j'étais médecin. Et ma journée était atroce, vraiment, j'ai subi, on savait même pas que c'était une fausse couche, on croyait que j'avais fait une IVG, donc on m'a dit alors comment vous allez faire maintenant pour la contraception, on m'a laissé baigner dans mon sang comme ça, on m'a tapé sur l'épaule en me disant « Allez, vous inquiétez pas, vous en aurez d'autres, des enfants ». C'était une journée atroce, j'ai fini par fuguer en arrachant ma perf, je suis rentrée chez moi en taxi, on m'a jamais demandé si je m'étais pas fait écraser par une voiture. Bref, je suis passée de l'autre côté et ce que j'ai vu pendant cette journée était effarant, j'étais atterrée, c'était horrible. Et du coup, je me dis rien qu'en parler, j'ai vu les commentaires en dessous et quasiment tous les gens qui ont mis des commentaires, c'était « moi j'ai fait une grossesse extra-utérine, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça », et tout le monde avait une expérience atroce. Et je pense que c'est important d'ouvrir le débat là-dessus, parce que c'est des choses ultra fréquentes et qui n'étaient pas dites en fait jusqu'ici.
C'était pas dit, et c'est pour ça que je pense que les associations de patientes notamment, c'est hyper important, parce que en réalité, cette parole-là aussi, parfois on sait pas où la porter. Si on va toquer à l'hôpital en disant « oui, votre médecin, il est horrible et tout », on sait pas trop si on va être hyper entendu ou pas, alors que s'il y a 500 personnes qui viennent faire le même constat, là d'un seul coup ça devient plus fort, et il y a des associations de patientes comme ça qui ont fait pression parce qu'il y avait des récits mais immondes. Enfin, par exemple, si on peut parler du professeur Émile Daraï, par exemple, hein, qui est emblématique, il y en a d'autres. Hein, mais
est-ce que tu peux expliquer ?
Oui, alors le professeur Émile Daraï, il est soignant à l'hôpital Tenon. Il est accusé de plusieurs. Alors, il est accusé de viol. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte, pas sur les faits de viol, mais sur des faits de violence. Et donc là, il a été démis d'abord de ses fonctions à l'hôpital, mais il avait le droit de continuer à pratiquer. Enfin, il y a eu tout un tas de conseils. Mais les conséquences qu'il y a eu pour lui et sa carrière sont plus venues de la pression en fait faite par les associations de patientes et notamment Stop Vogue que vraiment de la justice, parce qu'en réalité, même là en mai dernier, je crois, je ne sais plus exactement le mois, mais en tout cas en printemps ou l'été dernier, il était encore invité lors d'une conférence et ça posait de problème à personne en fait, jusqu'à ce que l'association fasse pression à nouveau et ils ont annulé sa présence à la conférence. Mais en fait, c'est des gens... Enfin, là, on parle de dizaines de témoignages. Donc, c'est quand même quelqu'un... Enfin, En fait, ce qui est terrible, c'est que oui, ça a marché d'une certaine façon, mais voilà ce qu'il faut. Voilà, l'amoncellement de témoignages et l'amoncellement de violences qu'il faut pour que ça ait des conséquences. Donc, quand on parle de choses un peu moins graves, entre guillemets, ça reste quand même encore compliqué.
Si je peux donner un petit conseil aux patients, vous pouvez porter plainte, en fait. Mais par contre, il y a deux voies différentes. Si vous portez plainte contre l'hôpital, en fait, c'est le service juridique de l'hôpital qui va traiter la plainte. Et parfois, le médecin, en fait, la responsabilité sera portée collectivement par l'établissement. Et parfois, en fait, le médecin lui-même va même pas être convoqué. On ne sait pas toutes les plaintes, en fait, qui nous... parce qu'une partie vont être absorbées par la direction, par le service juridique, par le chef de service. Et parfois, le médecin ne sera même pas au courant, en fait, hein, parce que faut savoir que dans des services d'urgence, par exemple comme Bichat ou même celui où je travaille, les plaintes, elles sont quotidiennes. Donc, il y en a qui ne sont pas recevables, mais il y en a qui sont clairement des dysfonctionnements majeurs. Donc, quand vous portez plainte contre l'hôpital, le médecin en lui-même, ça se trouve, il sera... de toute façon, il sera très, très peu mis en cause. C'est vachement dur, en fait, hein, d'émettre un médecin de ses fonctions. Mais il y a une autre voie qui est de porter plainte directement à l'ordre des médecins. Alors, je ne veux pas accabler mes collègues et tout ça parce que c'est vachement dur, hein, de recevoir une plainte de l'ordre des médecins. Mais si vous portez plainte contre l'ordre des médecins envers un médecin en particulier, l'ordre des médecins est obligé d'organiser une conciliation. En premier lieu, il va organiser une médiation où vous allez vous retrouver face au médecin et exposer le truc. Si jamais ça peut se résoudre comme ça, tant mieux. Et sinon, après, ça va devenir une vraie... y aura une vraie audience, etc. Et ça peut aller jusqu'au blâme. Alors, les conséquences, elles sont rarement gravissimes. Hein. C'est plus un truc, une petite sanction, un peu comme un conseil de classe, quoi. Comme un conseil de discipline. Néanmoins, c'est quand même, en tant que médecin, ça fait quand même un peu mal et ça peut faire réfléchir.
J'aimerais bien, si tu es d'accord, Abigail, qu'on lise un deuxième extrait des textes que tu as publiés.
Alors, celui-là, il s'appelle « Petite mamie » et c'est, d'une façon générale, c'est sur la manière dont on traite les personnes âgées à l'hôpital et particulièrement aux urgences. « Petite mamie, tu ne sais pas qu'à l'hôpital, ton âge et ton cerveau qui te jouent des tours te disqualifient souvent d'emblée. Sur le marché du patient, ta cote est très basse. Trop vieille pour la cardiologie ou la pneumologie. Tu ne peux pas n'avoir qu'un seul organe qui déconne. On attend de toi une décrépitude totale, que tu partes en couille de façon globale. Les docteurs appellent ça poétiquement « altération de l'état général ». Personne ne veut de toi, tu comprends ? C'est pour ça que tu croupis sur ton brancard depuis 3 jours. Tu finis par faire partie des meubles, et si l'équipe est de bonne humeur, tu deviendras peut-être notre mascotte. Parfois, tu nous agaces, et il nous faut alors une piqûre de rappel pour nous souvenir que tu n'es pas qu'un problème. Le regard fou d'inquiétude de ta petite fille qui arrive enfin, le sac que t'ont préparé tes enfants avec un peu de linge propre et un flacon d'eau de Cologne, ta voisine qui n'arrête pas d'appeler et qui s'occupe de ton chat pendant ton absence. Mais attention, si tu t'agites trop, peut-être qu'on t'attachera. On te donnera aussi un neuroleptique, histoire que tu t'enfonces encore un peu plus dans ta nuit et que tu te tiennes tranquille. Ne me regarde pas comme ça, mamie. Je sais bien que de ton temps, on traitait sûrement mieux les anciens. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi, si même l'hôpital méprise les vieux ? Essaye de dormir un peu. Demain, on te trouvera peut-être un lit à 50 km de chez toi. Histoire d'être bien sûr que personne ne puisse venir te voir. Histoire d'être indigne jusqu'au bout.
C'est aussi un texte qui est très très fort et qui soulève plein de choses. Ce que tu montres, c'est que la médecine fonctionne un peu en pièces détachées. Il y a les cardio, la pneumo, la gynéco, je sais pas, la neuro. Et nous, on se vit d'un seul tenant. Et parfois, du coup, on est confronté à cette absurdité de la division des spécialités.
Bah, complètement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que 75% des patients qui vont être hospitalisés après un passage aux urgences, ils sont vieux. Et ça, en fait, c'est quelque chose que les spécialistes n'ont toujours pas compris. Et donc, ils savent que les patients très âgés ont souvent un panel de problèmes et qu'après une maladie, ils auront peut-être du mal à rentrer chez eux, ils auront peut-être du mal à marcher, peut-être qu'il faudra les mettre dans une EHPAD, peut-être qu'il leur faudra des aides à la maison, peut-être qu'ils sont seuls, peut-être que... Voilà. Et en fait, ça les saoule parce qu'eux, ils ont envie que ça tourne et que le patient reste 4-5 jours et qu'ensuite, il rentre chez lui. Donc, ces patients-là, ils vont être refoulés, en fait, clairement, de pas mal de services parce qu'ils ne sont pas rentables et qu'ils vont rester trop longtemps. Et du coup, on fait des services de gériatrie avec 15 lits. Alors qu'en fait, il en faudrait 200. Ou alors, il faudrait répartir la charge, c'est-à-dire que chaque service devrait prendre... si le patient vient pour un problème pneumologique, même s'il a 90 ans, il y va. Et on repense tout le système en disant, tant pis, la médecine, elle n'est pas faite pour fonctionner comme une entreprise. Et les gens, s'ils ont besoin de rester 2 mois, ils restent 2 mois. Mais comme le système est saturé et qu'il n'y a pas de lit et qu'on a fermé 80 000 lits pendant ces dernières années, ça ne marchera pas. Donc le patient âgé, lui, il représente vraiment toute cette absurdité, quoi. Effectivement, de faire de la médecine en pièces détachées, chirurgie, alors qu'en fait, c'est pas du tout viable, en fait. Plus on est vieux, plus on est malade et plus on a un panel de problèmes à gérer.
On a l'impression que tout le monde va se refiler la patate chaude pour pas avoir à le prendre en charge.
Ben oui, tout à fait. Et puis, du coup, il faut savoir aussi que, par exemple, nous, on a un service, enfin, les urgences vont avoir un service d'hospitalisation d'aval où on va mettre une quinzaine de patients qui doivent trouver un lit. Le lendemain, le boulot du médecin qui va être dans ce service, ça va être de trouver une orientation pour le patient. Donc, soit il rentre chez lui, tant mieux, soit il faut lui trouver une place. Et ben en fait, notre boulot, c'est d'appeler et de vendre, en fait. C'est un boulot de commercial. Dire, ouais, il a 90 ans, mais je te jure, franchement, il se débrouille tout seul, il peut manger tout seul. Et je te jure, il a de la famille. Et après, il pourra rentrer chez lui. Et non, il vit pas au 6e étage sans ascenseur. Et non, il est pas trop dément. Et non, il déambule pas dans les couloirs. Et non, il crie pas la nuit. Et les spécialistes en eux-mêmes descendent aux urgences et ils font leur marché, clairement. Il faut vendre le patient. Il faut dire qu'il est gentil, qu'il n'est pas trop sale, qu'il ne sent pas trop mauvais. Je grossis pas le tableau. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et moi, je me dis que tant que les médecins pourront choisir les patients et que ce ne sera pas imposé, je veux dire, il y a un lit, on met le patient, c'est tout. Et c'est celui qui est là depuis le plus longtemps qui doit y aller. Voilà, tant qu'on autorisera en fait le système à fonctionner comme ça, ce sera dramatique. Et ce temps qu'on passe à passer des coups de fil, parfois jusqu'à 40 hôpitaux, hein, on doit appeler 40 hôpitaux pour trouver un lit, bah, c'est du temps qu'on passe pas auprès du patient, quoi. Et du coup, les patients comprennent pas non plus. Ils ont toujours l'impression qu'on est en train de rien faire. Ils font, ouais, vous êtes au téléphone, vous êtes assis toute la journée devant votre ordi, vous êtes pas devant nous. Et ils comprennent pas qu'on travaille pour eux, mais c'est un travail délirant et absurde, quoi.
Je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Merci de nous parler aussi. Franchement, Abigail, c'est rare. Écoutez,
peut-être que je vais être au chômage après, peut-être me faire radier. Mais je sais pas, je ferai des podcasts pour de tout ça.
Je suis sidérée en fait que ça se passe comme ça, mais c'est bien parce que comme ça on sait, donc on pourra nous aussi donner des arguments en amont pour être bien vendu. C'est atroce, mais
en fait, ce qui est terrible, c'est que on connaît les vulnérabilités de nos sociétés et on sait qu'il y a des groupes de personnes qui sont plus vulnérables que d'autres, puisque c'est le cas dans la société de façon générale, le sexisme, le racisme, grossophobie, etc. Ce que je trouve vraiment d'une tristesse infinie, c'est qu'elle soit reproduite de façon aussi violente dans la santé et dans le système médical. Parce qu'en réalité, on devrait pouvoir attendre justement de cette part de la société qu'à minima, elle rétablisse un petit peu d'égalité et au contraire, elle appuie encore plus là où ça fait mal. Et je trouve ça vraiment très triste.
Dans ton livre, Eva, tu parles d'une distinction que j'ai trouvée très intéressante, c'est celle entre la souffrance et la douleur. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Oui, alors en fait, ça vient d'une chercheuse qui s'appelle Smadar Boustan. Et alors, elle explique en fait la différence. C'est-à-dire que la douleur, c'est le ressenti douloureux. Bon, on va être pincé, on va avoir mal. Donc là, c'est la douleur. Et la souffrance, en fait, elle appelle ça, c'est comme si c'était une douleur existentielle. C'est-à-dire que la souffrance, elle vient au-dessus de la douleur, elle vient même lorsqu'on n'a plus mal. En fait, il peut encore y avoir de la souffrance parce qu'en fait, c'est un peu tout ce mélange de séquelles, de choses profondes qui auront été attaquées pendant qu'on a eu mal, pendant qu'il y a eu de la douleur. Et donc, c'est à la fois les séquelles, c'est à la fois la peur à nouveau d'avoir mal aussi, et c'est l'accumulation en fait de cette douleur. Et c'est qu'en fait, on peut jamais vraiment complètement se détacher d'un jour où on a eu très très mal, ou de mois où on a eu vraiment mal, si c'est une maladie chronique, etc. Même le jour où ce mal cesse, même le jour où la douleur cesse, on reste dans une forme de souffrance.
Abigail ?
Ben oui, c'est sûr. Et ce qui est désolant, en fait, c'est qu'on n'a pas les moyens de répondre, enfin, disons, de voir le patient dans sa globalité et de bien prendre en charge les conséquences aussi des pathologies. Parfois, une pathologie peut être très bénigne et vous pourrir la vie complètement. Et nous, on ne se rend pas trop compte, en fait, que, je ne sais pas, si on vous fracturez la clavicule et qu'on vous immobilise votre bras droit et que vous êtes tout seul chez vous et que vous avez mal et qu'on vous met sous morphine, ben, peut-être que ça ne va pas être possible, en fait, de rentrer chez vous, etc. Et nous, malheureusement, on est dans cette dynamique de, bah voilà, c'est bon, nous, on a fait notre job. On vous a mis votre attel, on vous a mis des médicaments, rentrez chez vous. Et c'est vrai que, d'une façon générale, la médecine occidentale, elle n'est pas holistique. Je n'ai pas trop envie de basculer dans le bien-être ou dans la médecine douce, mais n'empêche qu'on a des leçons, nous, en tant que médecins, à tirer de, par exemple, ces médecines parallèles vers lesquelles les patients vont se tourner. En fait, tout ce qui est empathie, prise en charge globale, écoute, care, En fait, les gens, maintenant, ils vont plus aller sur Médoucine que sur Doctolib. Et quelque part, je peux pas leur en vouloir. Et nous-mêmes, on doit tirer la leçon de ça et se dire qu'est-ce que ces patients vont chercher qui ne trouvent plus dans la médecine traditionnelle, allopathique, comme on dit. Ben, c'est ça, en fait. C'est juste une écoute et dire, ben, voilà, vous avez ça comme pathologie, ça va vous poser quoi comme problème, qu'est-ce que ça va être votre vie maintenant que vous avez cette maladie-là, quoi. Franchement, je ne peux que comprendre les patients.
C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que dans les... Tu vois, moi, je suis beaucoup de groupes Facebook de femmes qui sont atteintes d'endométriose, par exemple, de vulvodynie, de ce genre de choses, et qui ne trouvent tellement pas de réponse, en fait, dans la médecine classique, parce qu'elles ne trouvent pas de réponse sur la douleur, notamment, qu'en fait, ils se donnent énormément de conseils. Et des conseils qui vont parfois être complètement... c'est anodin, on va dire, parce que c'est une tisane quelque chose, c'est manger autre chose, etc. Mais on sent cette détresse qui, en fait, les amène parfois à faire confiance à des gens qui sont, pour le coup, dangereux. Et en fait, il y a aussi cette part-là, en fait, qui est hyper grave parce qu'on délaisse, les femmes en particulier, mais on délaisse tout un tas de gens. Et après, on vient leur reprocher de faire confiance et d'aller manger des plantes et de faire confiance à des gourous, etc. Mais en fait, ça ne se passerait pas si elles étaient prises en charge et si elles étaient écoutées au début. Et ça, c'est quand même hyper important de se rendre compte que tout un tas de personnes sont en train de délaisser la médecine et sont en train d'être vraiment anti-médecine, anti-médecin. Et ça, c'est grave quand même, parce qu'on ne devrait pas en arriver là, je pense.
Merci Eva Tapsiro, je rappelle le nom de ton livre Les patientes d'Hippocrate. Merci Abigail, on peut te suivre sur Instagram et peut-être bientôt peut-être lire tes aventures,
enfin
tes aventures, tes mésaventures. Merci d'avoir été avec nous, merci à notre chargée de production Charlotte Bex et merci à notre réalisateur Paul Berthiaud. À très bientôt les amis.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.